Bonjour et bonjour aux quatre invités. Merci beaucoup pour votre présence à cette rencontre matinale, dont le but est de lancer quelques pistes et d'alimenter peut-être les ateliers qui auront lieu en cette fin de matinée et cet après-midi. J'aurais à cœur personnellement que cette rencontre soit vraiment utile, que ce ne soit pas quelque chose de séparé ou de purement décoratif. Je pense en plus que les invités présents aujourd'hui ont beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses stimulantes à lancer. Et donc ça va se passer grosso modo en deux parties. On va lancer un peu quelques pistes ici, lancer un débat, quelques échanges. Et puis assez rapidement, je pense que c'est très important que vous ayez la parole, soit pour réagir, soit pour poser des questions. Ça se fera aussi en deux temps, avec d'une manière un peu ludique. Les organisateurs ont prévu un petit chapeau avec des mots-clés qui vont circuler parmi vous, et peut-être certains mots vont être tirés, et puis alors les invités vont réagir, et puis vous aussi, vous serez invités peut-être à partager vos expériences. Et puis aussi alors une séance de questions-réponses très ouverte. Ça devrait nous mener jusqu'à 11 heures. Au moins, peut-être ça peut déborder un peu si la richesse de l'échange le permet. Voilà. Je ne vais pas parler très longtemps et avant de poser une première question très ouverte pour vous permettre peut-être d'entrer dans le vif du sujet, rapidement une présentation de nos quatre invités. Christine Mailly, présidente dirigeante du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, aujourd'hui et depuis 10 ans, hein, je pense. Mais pas seulement ça, un parcours d'actrice de terrain infatigable, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Alors Frédéric Constantatos, chargé de projet à la SAWB, donc la Solidarité des Alternatives Wallonie-Bruxelles. Exactement, je te laisserai présenter tout à l'heure en détail. Paul Hermant, connu du grand public au départ pour les chroniques à la RTBF, notamment sur la radio La Première, mais beaucoup d'autres choses, journaliste à l'hebdomadaire Pour, hein, il y a un certain temps, fondateur de l'opération Village Roumain. Non, non, mais tout ça est important. Et puis récemment aussi cofondateur du G1000. Et puis là aujourd'hui, compagnon de route de Nico Cuet et des acteurs des temps présents, dont on va parler largement. Et puis, alors, Jérôme Van Reuschevelt, cofondateur du festival, co-organisateur, pardon, du festival Esperanza, et aussi cheville ouvrière du mouvement tout récent, un mouvement citoyen, tout autre chose, dont on parlera aussi en long, en large, tout à l'heure. Je lance une première question ouverte, mais qui concerne l'intervention que Christophe vient de faire et puis aussi le thème de ces rencontres. Changer l'économie, repenser l'organisation sociale et puis aussi travailler ensemble autrement. Ces trois jalons, ces trois axes, comment est-ce que vous personnellement et vous dans vos organisations, vous agissez pour atteindre ces trois objectifs ou pour suivre ces actions. Je propose de commencer par toi, Christine, et puis de faire un petit tour.
Donc tu disais changer l'économie, travailler autrement et
J'ai repris les trois
Oui.
axes
Mais je ne sais plus.
de cette journée à changer l'économie,
Oui.
repenser
Ah voilà,
l'organisation
repenser
sociale
l'organisation.
et puis travailler autrement. Mais je
D'accord.
suppose que ça concerne aussi le travail entre soi à l'intérieur
Oui.
de vos structures, mais pas seulement.
Oui.
Voilà.
Ben, je vais faire une première intervention en l'ancrant à partir de l'endroit où je suis maintenant, qui est le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et pour donner une résonance à ces trois éléments-là, à partir des populations qu'on rencontre au sein du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, et peut-être commencer par dire que, comme son nom ne l'indique pas, un des éléments qui est déterminant pour les populations qui fréquentent le réseau, qui militent, qui s'investissent, qui organisent des actions, qui interpellent le politique, qui se mettent en danger en énonçant la manière dont ils se débattent dans cette société pour exister à travers les institutions, les systèmes, les associations, etc. Puisqu'ils questionnent l'ensemble des systèmes, y compris les associations, et donc y compris les associations culturelles. Et je pense que c'est important de pouvoir l'entendre, que les populations questionnent aussi ces systèmes-là. Donc à partir de ces populations-là, ce que les gens disent, c'est que ils sont faits de richesses et la société est organisée autour de richesses. Et paradoxalement, il y a une espèce d'effet Mathieu permanent dans cette société qui fait que, et je vais l'expliquer si certains ne savent pas ce que ça veut dire, et c'est possible, on n'est pas obligé de savoir. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que dans l'ensemble de l'organisation de notre société, en général, les outils, les dispositifs qui existent, qu'ils soient dans le travail, dans l'économie, dans l'associatif, y compris donc dans le culturel, sont largement utilisés par les populations qui ont déjà les clés pour être les utilisateurs, les producteurs, ceux qui comprennent comment vont les mécanismes, et donc par ceux qui ont déjà de la latitude et du potentiel et de la reconnaissance dans la société. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, en général, les dispositifs, y compris culturels, sont construits davantage sous un regard de la classe moyenne pour la classe moyenne. Je parle ici d'une classe moyenne encore stabilisée. Je ne parle pas des gens qui sont en train de tout doucement s'écraser et rester chez eux par insécurité, peur, etc. Mais donc, en tout cas, l'ensemble des dispositifs qui sont dans la société, en général, sont conçus et pensés par une classe moyenne pour la classe moyenne et par la classe moyenne pour les autres dont elle pense qu'elle peut penser pour eux. Et donc, moi, je rencontre des gens qui disent ben, « Nous aussi, on a des potentialités et des richesses. Nous aussi, on estime que dans ces systèmes, dans ces institutions, dans cette société, dans le travail, y compris dans le travail, bien entendu, dans son sens noble, il y a des richesses, il y a des potentialités. Mais il se fait qu'elles nous échappent, puisqu'on ne pense pas aux extrêmes. Et quand on ne pense pas aux extrêmes, ça veut dire qu'on construit les institutions sur un fondement de renforcement des inégalités. » L'effet Mathieu, ça veut dire que si des gens ont déjà des forces et que des institutions, des outils existent dans la société, y compris l'accès au travail, aux richesses, etc., ils vont trouver immédiatement les clés pour utiliser l'ensemble des outils qui sont là et ils vont gagner encore plus. Ils vont renforcer leur potentiel de richesse immatérielle, matérielle, financière, culturelle, intellectuelle, relationnelle, affective, etc., etc. Et ça, c'est parce que dans le dispositif, on ne pense pas que les extrêmes, il faudrait peut-être ne pas toujours organiser les choses pour qu'ils puissent s'en saisir. Et puis, à l'autre bout, il y a des gens qui sont moins pétris de richesses au départ pour toutes sortes de raisons variables. Ces richesses sont très diverses, hein, elles ne sont pas que financières, évidemment. Et souvent, on n'y pense pas et puis on construit des dispositifs réparateurs après coup. Quand on a imaginé l'ensemble de ses actions, de son fonctionnement institutionnel, etc., en se disant « Ah oui, et il y a aussi ceux qui ne vont pas bien, il y a aussi ceux qui n'ont pas assez d'argent, il y a aussi ceux qui vivent dans les quartiers, il y a aussi ceux qui finissent par partir avec les djihadistes, il y a aussi ceux, et donc on va construire quelque chose à côté de ce qu'on est en train de faire pour tout le monde, pour essayer de les raccrocher dans quelque chose. » Donc voilà, moi je questionnerais changer l'économie, travailler autrement et repenser l'organisation sociale sous cet angle-là, inviter déjà à réfléchir la mise en place de dispositifs en pensant aux extrêmes, ceux qui ont déjà toutes les facilités de s'accaparer les outils nouveaux, les dispositifs nouveaux, les actions nouvelles, etc., 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 pour éviter qu'évidemment ils soient dans cet accaparement permanent. Et est-ce qu'on peut leur reprocher ? Si on crée les conditions qui font qu'ils peuvent se les accaparer, en tout cas, du moins dans ce qu'on maîtrise soi-même, hein, je ne dis pas qu'on maîtrise tout à tous les étages, et puis ceux qui, à l'autre bout de la chaîne, eux se disent, non, je ne vais jamais faire partie que de la barque qui sera tirée par le grand bateau, si peut-être il y a une barque. Parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de barques, et il y a des gens qui sont directement dans l'eau, c'est à peine une image. Hein. On sait qu'il y a des demandeurs d'asile qui meurent dans l'eau, et on sait qu'aujourd'hui, il y aura des drames sociaux encore plus nombreux, notamment liés, par exemple, à l'exclusion du chômage. Donc voilà, une invitation en tout cas à repenser les choses fondamentalement autrement chez tout le monde. Autant dans les appareils qui maîtrisent le travail que dans les appareils économiques, que dans le monde institutionnel, que dans le monde syndical, que dans le monde associatif, que dans le fonctionnement des citoyens. Parce que quel est le citoyen qui se dit « Moi, mon enfant a assez de potentiel pour accepter que l'enseignant dans la classe lui consacre moins de temps pour qu'il puisse en consacrer plus à d'autres ?» En général, le citoyen a envie que son enfant ait tout et le plus possible aussi. Donc cette question-là des inégalités au centre d'un requestionnement fondamental pour changer des dispositifs est très importante. Et je pense que là-dedans, l'innovation a toute sa place, la transition a toute sa place. Et les gens qui sont dans l'eau ou dans une barque ou dans l'avant-dernière barque ou dans la première barque accrochée au gros bateau, ils sont prêts à l'innovation aussi. Et ils sont d'ailleurs tout le temps, eux, en train d'inventer pour pouvoir simplement tenir dans la vie. Et cette invention-là, elle n'est pas reconnue par la société, elle est stigmatisée par la société. Et c'est un peu l'innovation du peuple d'en bas qui n'est pas écoutée. On entendra positivement, et je n'ai aucun problème avec les gens qui ont ce projet-là, hein, on entendra positivement un habitat alternatif du type la baraque à Liège parce qu'on est face à des gens qui sont intellectuellement nantis dans un contexte intellectuel qui peut se laisser questionner par des dispositifs. On n'entendra pas l'invention du gars qui est dans une caravane dont le monde culturel dira qu'elle est laide et qu'il faudrait la cacher largement derrière des beaux arbres en milieu rural alors qu'il invente aussi quelque chose qui lui est absolument indispensable et nécessaire. Je suis un peu caricaturale, mais c'est pour aller vite.
C'est ça, recueillir le savoir, la richesse, la parole de ceux qu'on ne voit pas, de ceux qu'on n'entend pas, et pas seulement à travers des petits dispositifs compensatoires, mais vraiment repenser de manière structurelle les manières de fonctionner. Je glisse juste entre parenthèses, enfin peut-être pas entre parenthèses, c'est-à-dire que le thème de, par exemple, l'atelier 3 de cette journée, c'est une ouverture des centres culturels vers les non-publics. Je pense que tu travailles aussi avec les centres culturels et que cette question de comment aller non seulement donner des choses au non-public, mais aussi recueillir des choses et recueillir la parole et les savoir-faire et les savoir s'exprimer de ces non-publics est aussi au cœur de ta démarche.
Oui, et pour ne pas être trop long peut-être, mais en tout cas, moi j'aurais envie de vous dire, alors commencez déjà par bannir l'appellation non-public, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le non-public, c'est une invention de ceux qui ont besoin du public pour remplir leurs salles et leurs ateliers, ça. C'est pas une réalité de la population. Donc moi, je vous invite déjà à questionner le vocabulaire qui est utilisé, singulièrement dans le monde culturel. Il faut questionner la manière dont on nomme les choses. Il n'y a pas de nom public, il y a des populations. Il y a des populations qui ont une culture anthropologique. Il y a des populations qui sont disponibles à la production et à la création par eux-mêmes et qu'il faut pouvoir aller rencontrer en créant les conditions de l'égalité du terrain qui font qu'ils pourront être productifs. Et il y a des populations qui sont ouvertes à aller découvrir des choses différentes d'eux, si on a créé les étapes d'avant. Et donc, je pense que reparler de population plutôt que de public, ça s'impose. Bannir l'idée qu'il y a un non-public, alors qu'il y ait de la non-capacité à aller à la rencontre du public, oui, peut-être, qu'il y ait une manière d'organiser et de gérer les budgets des institutions qui font qu'ils sont davantage dévolus à une catégorie de population qu'à tout le monde, oui, peut-être. Mais donc, Le public, c'est la population. La population, c'est ce qui compose notre société. Et c'est au service de cette population que l'on existe à travers l'ensemble des dispositifs qui sont en place. Donc voilà, j'inviterai en tout cas dans cet atelier à questionner la notion du vocabulaire utilisé, qui est porteuse évidemment de regards, de manière de développer des méthodes, d'idéologie et de classification.
Merci beaucoup, ça fait déjà du grain à moudre hein, pour tout à l'heure. Je vais me tourner vers vous deux, mais je voyais Paul Herman réagir et sourire et hocher la tête par rapport à cette question du non-public. Alors bah, peut-être une réaction et enchaîner là-dessus, mais aussi sur ces trois axes hein, de ces journées, changer l'économie, repenser l'organisation sociale, travailler autrement. Comment est-ce que les acteurs des temps présents s'inscrivent dans ces dynamiques?
Non, je rigolais parce que je me disais que je suis un non-orateur et en tout cas un non-expert, donc tout va bien. Comment les acteurs du temps présent prennent la question? Alors bon, petit mot de présentation sur les acteurs des temps présents. C'est un mouvement que j'aime à qualifier d'impur. Il est né à l'initiative des métallos de Liège, de la centrale métallo avec Nico Cué. Et donc c'est au moment de la fermeture des aciéries Mittal, où tout s'est requestionné autour de qu'est-ce qu'on va devenir, mais qu'est-ce qu'on peut encore devenir si on reste tout seul à se questionner sur notre devenir. Et Nico a eu cette belle idée d'aller questionner d'autres secteurs de la société qui sont traversés, pensait-il, et je pense qu'il avait raison, par le même type de problématiques, mais qui sont très loin dans l'échelle de la relation. Il a donc été à la rencontre des agriculteurs, d'un côté, je vous laisse à penser ce que peut donner une rencontre entre un métallurgiste et un agriculteur, l'un polluant l'air, l'autre essayant de cultiver les sols, en tout cas pour ceux qui travaillent le bio, de la manière la plus naturelle qui soit, et puis les artistes. Les artistes avec leur statut d'artiste, et de mettre ces trois publics en marche vers des, non pas des revendications, mais une espèce de formulation, une mise en situation de qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de mélanger les luttes et les combats et vers quoi ça amène. Alors, vers quoi ça amène ? Notamment dans le parcours, je prends le mot à dessein, dans le parcours des acteurs du temps présent, qui est donc une association de fait, hein, qui n'a pas de base juridique à ce jour et qui rassemble donc les présents, ceux qui sont là au moment où l'on parle. Dans le parcours des acteurs, il y a eu notamment en mars ou avril dernier, je pense, une marche, enfin des marches qui sont parties de plusieurs points de Wallonie pour converger après une semaine de marche ici et là à Namur. L'ambition de ces marches était sur le parcours de réaliser ce que nous avions appelé le cadastre des scandales et des merveilles. Je vous donne un exemple, quelque chose qui m'a extrêmement marqué, c'était ma journée à Couvain, où dans le même temps, nous avons donc fait quatre choses lors de cette journée, ça va rejoindre ce que Christine disait juste avant. Nous avons commencé par la visite, la rencontre avec un grand jardin collectif à quelques kilomètres de Couvain, avec inévitablement l'étonnement de la part des marcheurs qui étaient constitués de façon très, très variée, d'associatifs, de syndicalistes, de gens du secteur culturel, locaux pour la plupart. C'est étonnant évidemment que ces choses-là n'aient pas perfusé dans leur niveau de connaissance, et que par exemple le syndicaliste disait tiens, moi je me verrais bien bêcher dans ce jardin collectif, mais j'en avais même pas connaissance. Ensuite nous sommes arrivés à Couvain, sur la place centrale, où là les ouvriers sont sortis de l'usine qui borde juste la place, en habit de travail, avec les mains noires du travailleur, pour nous faire part effectivement des difficultés que rencontrait l'usine et de la fermeture à terme qu'elle allait probablement encourir. De quoi nous sommes passés vers une usine fermée, une poêlerie. Une poêlerie par ces temps, aujourd'hui, nous fermons encore des poêleries chez nous. Une poêlerie qui fermait pour la raison que le patron voulait prendre sa retraite et qu'il n'a pas trouvé de repreneur qui mettait assez au pot pour ne pas licencier la soixantaine d'ouvriers qu'il employait. Le pot étant fourni notamment par la région wallonne, mais il y avait juste une question de 100 000 euros qui était en jeu, en fois de quoi l'usine a fermé. J'ai appris récemment qu'elle allait rouvrir, ce qui est une fort bonne chose. Et enfin, nous sommes arrivés dans un camping résidentiel. Nous avons effectivement pu travailler avec les gens qui y vivent sur les stratégies de survie qui sont mises en place dans ces lieux où, de fait, il y a aussi une sorte d'autres genres de patronat rampant, avec les fermetures d'eau, les coupures d'eau, d'électricité, enfin tout ce genre de choses-là. Donc ça nous a déterminés à continuer ce travail à bas bruit, c'est un travail que nous faisons de manière discrète, afin de savoir comment on allait retravailler toutes ces sortes de liens, nous rendant compte qu'effectivement, nous avions perdu de vue hein, ce que Christine vient d'appeler le peuple d'en bas. Ça peut avoir l'air surprenant pour des syndicalistes, mais là aussi, la question est tout à fait présente de savoir vers quoi notre cœur bat. Il a battu longtemps avec l'étoile la plus lointaine, et ce qui était au plus lointain nous intéressait plus que ce qui était au plus proche. On pourra en faire la critique sans doute à un autre moment, mais enfin bref, nous voilà revenus chez nous en questionnant le proche, le voisin, en s'apercevant de la méconnaissance que nous avons les uns par rapport aux autres, des préjugés qui jaillissent à chaque moment de conversation, des précarés qu'il s'agit de préserver, les difficultés que nous avons à admettre que les comportements qu'on espère de la part du peuple d'en bas ne correspondent pas à ce qu'on attendrait d'eux souvent. C'est très décevant, c'est extrêmement décevant. Nous sommes très très déçus en tant que gens de gauche de voir qu'effectivement c'est terrible. Donc, comment relier tout ça ? Comment relier tout ça ? Donc, les acteurs du temps présent se sont dit, on va remettre en route la vieille machine qui, même au niveau syndical, est une idée qui redevient nouvelle, mais qui est toujours une idée étrange, qui est celle des coopératives. Et donc, nous sommes en train d'ouvrir une coopérative qui se voudra extrêmement large et qui rassemblera tous ces publics et qui a essentiellement pour objet de retravailler ces questions-là, notamment en créant ce que nous appelons très mal pour l'instant, mais que nous appelons quand même des conciergeries de quartier, c'est-à-dire aller vers des lieux où la question, et là on touche à l'économie bien sûr, la question de la gratuité, des mutualisations des savoirs et des avoirs, les solidarités et les échanges seraient privilégiés. Voilà, donc c'est une façon pour nous de prendre en compte la richesse existante, puisqu'évidemment nous n'allons pas travailler de façon déconcertée avec les gens dont c'est aussi le terrain, mais que tout ça va se faire, espérons-le, dans une espèce d'adéquation la plus juste possible, de façon à travailler sur repenser une prospérité qui ne voudrait pas équivaloir la croissance. Donc voilà, c'est pour l'instant, je vais m'en arrêter là, je pense.
On peut revenir en détail sur certains points, et notamment des parallèles peut-être à faire avec toute autre chose dans votre organisation. Je voulais juste dire que j'ai rencontré Nico Cué personnellement à plusieurs reprises, en tant que syndicaliste, parce qu'il faut dire, au départ, ça émane de la FGTB, notamment de la Fédération des métallos Wallonie-Bruxelles. Il se dit, lui, toujours extrêmement préoccupé, extrêmement à l'écoute de sa base. Et donc là, il y a vraiment une initiative pour élargir cette base, sortir de la base strictement syndicale, aller vraiment à la rencontre de toute cette richesse que vous avez rencontrée dans ces marches.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est comment effectivement on se rend compte qu'à un moment donné, on ne connaît plus même sa propre population et la base du syndicat. On est une des preuves. Et donc effectivement, la question de Nico, en se reliant avec les agriculteurs, avec les artistes, était effectivement de travailler à mêler les intérêts, mêler les plaisirs, mêler les luttes, mêler les combats, mêler les discussions, mêler les débats, de sorte à voir comment effectivement on pouvait progressivement en arriver à l'élargissement de la base, la plus large possible, d'où l'idée de cette coopérative, d'où l'idée de rejoindre les quartiers, d'où rejoindre le local, d'où aller vers la proximité et de retravailler à partir vraiment du noyau local, vraiment de façon presque nucléaire, de retravailler cette solidarité-là à partir de vraiment ces quartiers que nous avons désertés.
À partir d'eux, je crois que c'est fondamental. La transition semble facile vers Jérôme et vers toute autre chose, qui est lui aussi un mouvement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui n'est pas ni une ASBL, ni une association de fait encore, c'est un mouvement citoyen qui émerge. Donc voilà, par rapport à ce que vient de dire Paul, et par rapport aux trois axes que je rappelle de cette journée, changer l'économie, repenser l'organisation sociale, travailler autrement, comment se positionne et comment s'organise toute autre chose.
Avant toute chose, moi j'aime à rappeler aussi que je ne suis pas expert et que je suis expert de rien du tout. D'autant plus que quand Christine, Paul et Frédéric parlent quelque part, je suis généralement dans le public et rarement à côté d'eux. Et en plus de ça, je suis très jeune et probablement un des plus jeunes dans la salle. Donc moi j'apporterai effectivement l'éclairage sur toute autre chose, mais sans grande prétention. Alors oui, pour parler de changer l'économie, peut-être juste se remettre à un niveau qui est à notre échelle, parce que je pense qu'un des dangers quand on parle du changement de paradigme économique, c'est qu'on le voit comme étant trop haut, trop complexe, trop dirigé par des sphères internationales ou mondialisées, et qui fait qu'on n'a pas de prise. Or, si on revient sur un petit peu d'étymologie du mot économie. Je pense, en tout cas si je ne me trompe pas, l'étymologie du mot économie, c'est la gestion du foyer. Et donc si on vient juste à ce niveau-là, bah, ça revient à un niveau beaucoup plus concret où on a des prises. Je pense que, tout autre chose, on a beaucoup dit que c'était un grand pan du mouvement culturel en Belgique francophone qui avait investi. C'est entre autres vrai, il y a des raisons à ça. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part du monde culturel qu'il y a un rôle à jouer dans les luttes au niveau du changement de paradigme. Le rôle principal, d'après moi, notre rôle principal en tant qu'acteur culturel, d'après moi, c'est de pouvoir faire rentrer les gens dans un autre imaginaire. On nous dit qu'il n'y a pas d'alternative. Bah oui, il y a des alternatives. Et donc, du coup, pouvoir faire goûter aux fruits défendus les gens, tous les publics, le fruit défendu des alternatives à la fois politiques et pratiques qui existent, qui se vivent, qui sont théorisées. Justement, par la création de création artistique ou culturelle, faire rentrer les gens dans un imaginaire, les faire s'évader, hein, comme on dit, il y a que les geôliers qui dénoncent l'évasion, les faire s'évader vers un ailleurs. Là, le monde culturel a véritablement une emprise, notamment dans la vulgarisation ici de la critique de l'austérité. Donc, c'est-à-dire que quand toute autre chose est née, on nous a dit, mais vous allez réinventer quoi, vous allez redire quoi, tout a déjà été dit. Effectivement, tout a déjà été dit. Les études sont là, les associations, le monde syndical a déjà travaillé depuis des années sur ces sujets-là. C'est à nous, mouvement tout autre chose et entre autres aussi monde culturel, à pouvoir vulgariser cette critique-là, à l'amener aussi dans des publics qui ne sont pas sensibilisés ou pas mobilisés par rapport à cette critique-là, et puis après, amener des pistes vers toute autre chose alternative, mais pas n'importe quoi. Et ces pistes-là aussi doivent pouvoir être fun, chouette, on doit pouvoir réenchanter la vie quelque part, parce que comme le disait Christine, moi je suis très sensible au fait, et notamment je suis investi dans une petite assoce à Saint-Jos, c'est très facile de venir chez un jeune de lui dire écoute, le monde de demain ce sera sans iPhone, sans voiture, ce sera de la permaculture, ce sera de la simplicité volontaire. Quant moi, personnellement, issu d'une classe moyenne, j'ai eu accès à tout ça, à l'iPhone, à la voiture, etc. Et que le jeune à qui je parle n'espère qu'une chose, c'est pouvoir y avoir accès. Et donc lui dire non mais t'inquiète pas, en fait ça, le monde dont je te parle ça va être chouette quand même. Et donc du coup pouvoir changer des lexiques aussi, changer des manières d'appréhender ces débats qui paraissent un petit peu compliqués en fonction des publics. Et là, du coup, les rôles des centres culturels, c'est clairement à des niveaux locaux, essayer de rassembler les différents acteurs, les maisons de jeunes, ceux qui font du travail plus d'insertion professionnelle, les associations de quartier ou les associations en général qui sont investies dans la région, pouvoir rassembler les acteurs. Puisque les centres culturels ont peut-être l'avantage d'avoir moins d'étiquettes, il y a moins d'enjeux de pouvoir, rassembler les acteurs dans des productions en leur sein, faire des rencontres, organiser des conférences gesticulées, un peu originales, qui vulgarisent les débats complexes, et pouvoir du coup rendre réjouissant le débat public et un éventuel avenir tout autre, quoi.
Une de vos particularités, c'est que vous n'arrivez pas avec une structure déjà constituée, avec un programme mis en place, mais c'est que, ça rejoint ce qui a été dit par Paul et aussi par Christine, vous arrivez avec beaucoup d'énergie, avec des gens qui sont disposés à passer du temps, à donner de leur temps et à mettre la main à la pâte, mais vous êtes dans une dynamique de consultation, d'écoute, et vous allez à la rencontre aussi d'un public très varié.
Dans nos intentions, en tout cas, oui. C'est clair que, en fait, la difficulté qu'on a pour le moment, c'est qu'il y a énormément de gens qui nous disent que ils sont prêts à investir le mouvement, à parler de telle ou telle thématique dans leur localité, à mettre en place telle ou telle action avec tel ou tel acteur, et que la difficulté pour le moment, c'est la structuration du mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, on évite à tout prix une institutionnalisation, on essaye de faire en sorte qu'on garde une spontanéité citoyenne à l'intérieur du mouvement, mais ça n'empêche qu'il faut une organisation. Et quand on a des milliers et des milliers de personnes qui nous disent qu'ils sont prêts à s'investir, il y a un gros défi, quoi. Et donc, d'autant plus qu'on doit pouvoir continuer à collaborer avec ce qui existe déjà, dont les acteurs des temps présents, dont moi, je suis un peu tombé amoureux des acteurs des temps présents, notamment dans les marches à Couvain auxquelles j'ai participé et où j'ai rencontré Paul pour la première fois, d'ailleurs. des 1920 aussi, d'autres plateformes qui rejoignent et qui rassemblent des pôles plus militants ou des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer. Et donc oui, allier tout ça à la fois donc, au niveau associatif et en même temps garder une spontanéité citoyenne, c'est un gros défi. Et on ne veut pas effectivement amener un mouvement clé sur porte en disant le mouvement sera comme ça, investissez-vous là, là ou là. Et on se rend compte que les gens n'ont pas nécessairement l'habitude de ça. On dirait, on amène les gens dans les commissions et en fait on retravaille déjà la structure, on pense une nouvelle manière de faire des débats et eux ils pensaient qu'on était à l'étape suivante, déjà de la mise en action, etc. Alors que l'idée c'est quand même que le citoyen ait mis sa patte dans la création du mouvement. Ouais.
Oui, on n'est plus habitué finalement à ce qu'on nous demande notre avis ou à ce qu'on nous demande de tiens, qu'est-ce que vous pensez ? On n'est plus dans le à partir de dont on parlait tout à l'heure. On a pris l'habitude qu'on nous propose quelque chose de déjà formaté. Rapidement, l'appel de toute autre chose, c'était le 10 décembre dernier, je pense, hein, 2014.
En fait, oui, il est sorti dans la presse le 10 décembre. On avait prévu que ça sorte le 11, on n'était pas prêt. Mais oui, effectivement, donc on va dire le 10 décembre, oui, tout à fait.
D'accord. Et depuis, ça a été signé par combien de personnes ?
Donc là, on est à peu près 10 000 personnes et une grosse centaine d'assos. Il y a eu un gros pic et maintenant, de toute façon, on n'a plus envie d'essayer d'amener les gens à signer parce qu'on veut d'abord se structurer et leur dire bah, comment ils pourront s'investir. Après, on relancera peut-être ça. Donc oui, effectivement, une dizaine de milliers de personnes juste sur un appel, donc sans encore avoir nécessairement rien prouvé sur le terrain, juste avec des intentions, ce qui amène pas mal de pression et un chouette défi pour l'avenir.
On en reparle tout à l'heure. Frédéric Constantatos, Frédéric, bonjour. Et je me tourne vers toi pour la solidarité des alternatives Wallonie-Bruxelles. Je me suis un peu documenté. Alors, c'est une fédération d'associations d'économie sociale. Alors, peut-être aussi, on peut rappeler pour les personnes qui ne le sauraient pas ce qu'est le secteur de l'économie sociale. Je disais que je me suis un peu documenté dans une interview où tu parles d'un secteur qui... Enfin, d'une économie sociale qui concerne notamment l'accès au logement, l'accueil de la petite enfance, les mutuelles, les maisons médicales, les services à la collectivité, encore beaucoup d'autres choses. C'est 5260 entreprises en Wallonie et à Bruxelles pour 92 000 emplois. Donc c'est un secteur gigantesque qui a des effets extrêmement positifs, extrêmement féconds sur le tissu social à des niveaux qui ne sont pas toujours visibles. Et donc voilà, comment peut-on présenter cette masse de travailleurs et d'associations et puis aussi, donc, par rapport aux trois axes de la journée, changer l'économie, repenser l'organisation sociale et travailler autrement. Comment est-ce qu'au cœur de SAWB, vous agissez dans ces sens-là ?
Ok.
Beaucoup de choses.
Oui. C'est vrai que l'économie sociale, c'est une vieille dame. Sans doute que vous la connaissez au quotidien, que vous avez des relations avec elle, identifiées clairement. Ah oui, je sais, c'est une ASBL. Oui, je sais, c'est une coopérative. Ou bien... Très souvent, ben, on ne le sait pas. Ce qui est rigolo, c'est que parfois même les acteurs qui portent l'alternative économique ne se reconnaissent pas, n'ont pas l'étiquette économie sociale. C'est par exemple dans le secteur culturel, le cas des Grignoux à Liège. C'est parce qu'un jour, quelqu'un leur a dit « Mais vous faites de l'économie sociale, ça faisait 30 ans qu'il fonctionnait de cette façon-là. » Et « Ah ben du coup, on va postuler au prix, tiens, et puis on va l'emporter. » Mais voilà. En fait, l'économie sociale, elle est la fille de la nécessité. Ce sont des personnes qui constatent « Voilà, on a un besoin qui n'est pas rencontré. » Là, on a besoin d'emploi, on a besoin de conserver notre outil de travail, que cette usine ne ferme pas. On a besoin que ce ne soit pas Electrabel qui exploite le vent dans notre commune et qu'on puisse gérer l'énergie comme un bien commun. On a besoin de tas de choses comme ça. Et l'idée est à chaque fois qu'à plusieurs, on va être plus fort, que ce n'est pas l'argent qui doit être le décideur. C'est-à-dire que, certes, on va... avoir une activité économique, on va produire quelque chose, on va permettre à d'autres de le consommer, on va devoir jouer dans les mêmes règles légales que n'importe quelle entreprise, mais notre but sera d'être viable et surtout utile. C'est pas en faisant d'économie sociale que vous allez avoir des actionnaires qui s'enrichissent. On rémunère pas spécialement le capital, c'est d'abord faire que le projet fonctionne et puis le développer, être solidaire avec d'autres projets, améliorer les conditions de travail, le temps de formation, etc. C'est ça l'objectif et le mode de fonctionnement de l'économie sociale. Et quand elle dit que l'argent n'est pas le décideur, dans une entreprise classique, il paraît assez logique que celui qui a investi le plus soit celui qui peut peser le plus dans les décisions, puisqu'il est supposé avoir pris le plus de risques. L'économie sociale, elle dira, mais enfin, que tu sois né riche ou moins riche, tu as la même valeur, et l'entreprise, elle est collective, c'est un projet commun, donc faisons en sorte que chacun ait le même poids dans les décisions. Qu'à l'Assemblée générale, ben, ce soit un homme une voix et pas un euro une voix. Ça, c'est un peu le cadre général de l'économie sociale, et donc, effectivement, quand tu me demandes est-ce que c'est possible de changer les choses, cette vieille dame, elle en fait la démonstration depuis très longtemps, elle se renouvelle, tu sors des chiffres. Moi, je ne suis jamais très au clair avec eux, mais elle peut dire effectivement, oui, on change les choses et on perdure. On change les choses dans ce qu'on produit, pour qui on le produit et comment on le fait. D'un autre côté, si on organise cette journée-ci, c'est bien comme on en organisait à d'autres, comme à d'autres rendez-vous où on se croise. Si toute autre chose naît, c'est bien aussi que l'économie sociale n'a pas révolutionné le monde. Elle est pas, on ne peut pas la considérer comme la seule voie de salut. Elle a vraiment besoin d'une association large, elle a besoin d'être re-questionnée très souvent. Quand Christine dit construire des alternatives pour autrui parce qu'on pense à sa place, ben ça c'est un gros enjeu pour l'économie sociale aussi. Elle est un outil propice à mettre tout le monde dans le coup, mais comment est-ce qu'elle le fait? Nous par exemple, on a à cœur d'aller frapper à la porte des entreprises et de leur dire bon, on pourrait prendre un temps de réflexion avec vos travailleurs parce que vous incarnez une alternative, mais est-ce qu'ils la comprennent, est-ce qu'ils se l'approprient, est-ce qu'ils la questionnent, est-ce qu'ils la critiquent? Et ça, c'est un travail passionnant, mais qui est... tout le monde le juge intéressant, mais de là à pouvoir te dire, bon, ok, je libère du temps de travail, je vais arrêter de gagner de l'argent ou de m'occuper de mes trucs concrets, de mes urgences, pour se donner ces moyens-là, ben, c'est pas évident. Ou bien vous pouvez avoir quelque chose qui fera sans doute écho à ce que Christine racontait. Des entreprises qui, par exemple, forment des jeunes ou des moins jeunes, qui ont sans doute essuyé beaucoup d'échecs, que ce soit avec le monde scolaire ou le monde de l'emploi. Et alors ils vont nous dire, ah oui, c'est vraiment bien, prenez le temps de discuter avec eux sur le sens du travail, etc. Et c'est vrai que c'est très chouette de pouvoir le faire avec eux, mais quand on leur dit, et vous, pourquoi est-ce que les travailleurs, vous venez pas? Ah non, on n'a pas le temps, on a du boulot. Voilà, on a aussi nos limites et on ne se va pas se poser ici en donneur de leçons. Par contre, c'est vrai que quand tu parlais d'imaginaire, un futur désirable, nous ça, je trouve que ça peut vraiment être un moteur, c'est d'aller chercher les alternatives, de voir, bah, tiens, vous existez, comment vous fonctionnez, et d'aller les chercher comme soit comme quelque chose qui peut te rassurer en disant, oui, c'est possible, effectivement, ben voilà, c'est, comme tu dis, les chiffres, on dit 10 à 6% de l'emploi en Europe, on est dans le même monde économique que les autres entreprises, mais quelque part, on a un peu mieux résisté à la crise, parce qu'on avait peut-être des logiques de plus long terme, et de coopération, de solidarité. Donc oui, il y a des choses... qui sont clairement possibles dans changer la façon de travailler, changer la façon de produire, de consommer. J'ai répondu à ta question ?
Oui, enfin, on pose des jalons, et puis je pense que d'autres choses vont être aussi redites ou abordées tout à l'heure, et aussi dans les interactions avec la salle. J'aimerais insister sur un des axes de cette journée, qui est travailler autrement, et vous poser une question à tous les quatre. Sur cette notion de travailler autrement à l'intérieur des structures. Parce qu'on peut très bien imaginer, je pense qu'il y en a, des structures qui défendent un monde plus démocratique, qui publient des articles, qui font des actions pour promouvoir un monde plus démocratique, et qui, en interne, ne fonctionnent pas forcément de manière démocratique. Donc j'aimerais vous poser cette question, qui renvoie aussi à un des thèmes des ateliers, de manière directe ou indirecte, renouveler les dynamiques au sein des équipes, quid des techniques de management alternatif. Là aussi, ça va peut-être faire sursauter certains des invités, hein. Cette question du management alternatif, quand est-ce qu'on est encore ou plus dans le management, et comment est-ce qu'on se positionne par rapport même à ce mot de management. Mais donc, au sein de chacun de vos associations, comment est-ce que vous arrivez à promouvoir un fonctionnement plus démocratique et à travailler ensemble en évitant ces écueils? Tu en as touché un mot, hein, donc je reviens vers toi pour commencer, Frédéric.
Mais moi, je vous ai dit, on veut fonctionner autrement, et donc dans l'Assemblée générale, on va se dire, c'est un homme, une voix. Maintenant, quand je vous dis ça, je n'ai pas du tout dit qu'au fonctionnement quotidien de l'entreprise, ça, c'est nécessairement différent. Un homme, une voix, c'est un peu notre plus petit commun dénominateur, parce que l'économie sociale, elle est, je ne vais pas dire éclatée, mais elle est très diverse. Vous allez avoir des secteurs d'activité, des tailles, des modèles d'entreprise très différents, et aussi des options politiques qui vont pouvoir se rassembler largement, mais qui vont aussi avoir des divergences. Et donc, au-delà de ce plus petit commun dénominateur, effectivement, il y en a qui vont avoir plus d'ambition et qui vont pousser les choses plus loin. On va pouvoir parler d'autogestion, que l'entreprise en fait appartienne aux travailleurs, que eux décident les grandes orientations stratégiques, voire quand ils sont en plus petit nombre, qu'ils décident même aussi ensemble de l'opérationnel. Et puis, entre ces deux curseurs que je viens de placer, on a toutes les variations. On va avoir des modes de gestion participatifs plus ou moins inclusifs, plus ou moins bien menés. Et ça, pour nous, c'est vraiment un enjeu de taille. On a des entreprises qui déjà ont formalisé les choses, comme Terre ou comme les Grignoux, comme Damnet, qui est une coopérative de travailleurs dans le secteur de l'informatique, ici, près de Namur. Et un travail qu'on a fait récemment avec eux, c'était de pouvoir dire, tiens, en fait, quel mot on pourrait mettre sur la façon dont on fonctionne, quelles questions ça nous pose aussi, et comment est-ce qu'on peut éventuellement le faire reconnaître. Parce que ça peut être un enjeu, je trouve, des alternatives, c'est de ne pas rester une réserve d'Indiens, un monde clos qui est confortable sur lui-même, mais qui, quelque part, fait avancer la donne, fait en sorte que ce qui est possible pour nous soit possible pour d'autres aussi. Et donc là, c'est tout un travail, justement, quand on évoquait les acteurs qui ont à questionner le changement, les syndicats aussi, c'est un travail de discussion, de compréhension, d'interconnaissance à mener avec eux. Et donc, je dirais que l'économie sociale, c'est un outil pour fonctionner autrement et qu'il est à investir. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut de l'autogestion partout, parce que je pense que si elle n'a pas de sens ou si elle est mal menée, elle va être au contraire totalement contre-productive. Elle va sans doute saper les aspirations à fonctionner autrement. Elle va décrédibiliser l'alternative. Quant aux méthodes de management, effectivement, ce n'est pas du tout la même chose comment je dirige une équipe et comment je partage la propriété de mon entreprise. Et donc, on pourrait très bien avoir des méthodes de management qui sont participatives ailleurs que dans l'économie sociale. Et ce ne sont jamais que des outils, quoi. Pour le moment, nous, on est souvent sollicités aussi par des personnes qui s'intéressent beaucoup à la sociocratie, parce que là, le vent en poupe, on se dit, ah oui, voilà, on va pouvoir être à l'horizontale, etc.
La sociocratie.
Oui, donc c'est une façon d'organiser la discussion et la prise de décision, avec plutôt des tours de table où chacun peut donner son avis, où on va chercher le consensus le plus large possible, etc. Et quand je vois comment on est questionné là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a une aspiration à construire autre chose, plus de bien-être, plus de co-responsabilité, de délibération commune. Le tout étant de voir est-ce qu'on s'en donne les vrais moyens, quelle est l'intention qu'il y a derrière, et que ça ne devienne pas non plus quelque chose qui permet d'éluder le conflit et de finalement dire tout le monde est gentil, tout le monde est beau, nous sommes tous amis dans la même entreprise, alors qu'il pourrait tout à fait y avoir des dysfonctionnements, des conflits, et ils doivent être constructifs.
Oui, oui. Qui veut répondre? Qui veut amener sa réponse par rapport à cette question? Comment travailler autrement en interne? Comment dépasser certaines... Oui, Christine? Ou Jaume, comme on veut.
Oui, quelques éléments, en sachant qu'il n'y a pas de recette, hein, donc il faut aussi mouiller sa chemise à inventer, et donc on expérimente tout le temps. Mais moi, j'aurais envie de dire quelques points de repère, peut-être quelques balises et points de repère à se donner, si on s'y retrouve dans ces balises-là. En tout cas, c'est certain que nous, on trouve important et essentiel au niveau du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, et que moi, j'ai tenté de pratiquer aux autres endroits où j'ai été, avec plus ou moins de bonheur et de malheur, et en commettant des erreurs. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on commet une erreur ou que ça ne marche pas tout de suite, c'est systématiquement mauvais et qu'on doit revenir au modèle sociétal classique habituel. Une balise pour moi qui est importante sur comment travailler autrement, c'est de se mettre tout le temps dans la tête le point de repère qui est je suis travailleur, ou je suis engagé militant, ou je suis personne qui participe à travers une association, une institution, un front élargi, une structure, pour faire société. Et pas seulement comme travailleur parce qu'il me faut un job et que j'ai besoin d'un salaire, pas seulement comme militant parce que je déprime tout seul et que, ma foi, autant aller m'asseoir à des réunions, ou peut-être je ne ferai quand même rien, mais on aura l'impression qu'on fait de la participation. Autant comme front social élargi, pas seulement pour se dire il faut que le nom de mon association soit aussi dans ce front social élargi-là, parce qu'il faut que je sois identifié et qu'on voit que j'existe et que j'ai de la place à prendre. mais en quoi est-ce que je vais faire, ce qu'on va construire, sert à faire société, au sens fort du terme faire société, pas régler des problèmes sociaux. Comment est-ce qu'on est dans le vivre ensemble, le partage ensemble, l'égalité ensemble, le partage du territoire, du sol, des moyens, des ressources, de l'intellectuel, de la prise de parole, etc. Une deuxième balise qui me paraît moins importante aujourd'hui, c'est de renoncer à tout aspect de neutralité et savoir que quand on travaille ensemble, si on veut travailler autrement, on doit poser des choix orientés, qui sont des choix qui vont déterminer comment une société va être plus juste, ou moins juste, plus équilibré ou moins équilibré, autrement dit, se repolitiser fortement. Et donc se poser la question quand on travaille, est-ce que je suis en train de faire politique ou est-ce que je suis en train de me mettre à côté parce que c'est un mot qui puerait définitivement, parce qu'il est pollué par toutes sortes d'éléments extérieurs. Or, je suis étonnée, moi quand même, comme on rencontre encore beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'acteurs qui cherchent le mouvement neutre. Le truc qui serait hors de tous les appareils, qui serait tout suspect d'avoir dérapé, hein, depuis le pire jusqu'au meilleur, et donc il faudrait être à côté. C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai une difficulté avec ce qu'on appelle les mouvements citoyens. Je n'aime pas l'appellation mouvement citoyen. J'aime bien l'appellation mouvement. J'ai difficile avec mouvement citoyen parce que je n'ai rien contre le mot citoyen en tant que tel, mais j'ai peur que dans certains, ça donne une représentation de on est de nulle part dans le positionnement politique. On va chercher à faire ensemble pour que ça soit meilleur, mais on n'a pas envie de dire qu'il y a une orientation qui clairement va régler les inégalités, donc qui clairement va être une vision progressiste, et qu'une vision progressiste, elle n'est pas portée par tout le monde. Donc il y a des ennemis en face. Donc voilà, je pense que c'est des balises importantes. L'autre chose, on en a parlé tout à l'heure, le vocabulaire, réutiliser management. Moi, je pense qu'une balise, alors c'est, Paul pourra en parler beaucoup mieux que moi, parce que ça, c'est une de ses maîtrises particulières et avec laquelle il nourrit régulièrement les groupes, c'est comment on parle, comment on dit les choses, comment on les réinvente à travers le vocabulaire. Et on sait quand même que comment la manière de nommer les choses structure les organisations. Donc comment on ne se laisse pas contaminer par le vocabulaire des dominants qui les ont inventés pour oppresser le peuple d'en bas et l'ensemble. Donc qu'on enlève le mot management. Est-ce qu'on ne sait plus parler français ici et que dans un monde culturel, on ne peut pas dire autrement qu'on va réfléchir à une manière de s'organiser de façon alternative, je ne sais pas. Ce n'est qu'un exemple, hein, c'est parce que notre vocabulaire est contaminé. Et je pense que quand on croit détourner les choses en gardant la manière de nommer des oppresseurs, on inscrit un peu l'oppression à travers le travail qu'on est en train de faire, un peu ou beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, il y a du management culturel dans certaines structures, associations, etc., qui est vraiment du management culturel, du management technocratique au service des nantis et de ceux qui exploitent. Comme il y a des gens qui utilisent le mot management dans leurs institutions, et ce n'est pas ça qu'ils font. Donc, qu'ils s'en distinguent clairement et qu'on sorte de toute forme de neutralité qui aurait l'air de dire « nous sommes les grands amis, par exemple, aujourd'hui réunis dans l'Astrac, donc nous pensons probablement tous la même chose ». Je pense que c'est faux. Que dans la salle ici, il y a probablement des gens qui pensent des choses extrêmement différentes. Il faut se déterminer. C'est une autre balise à laquelle je penserai. L'autre, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est comment on crée les conditions de l'égalité dans l'ensemble de la vie, de sa structure. Et c'est compliqué. Donc comment on les crée dans le budget, dans qui est autour de la table, dans qui décide, dans à quelle intensité on travaille, dans quel rythme, avec quels outils de communication, avec quelle réalité de présence sur le terrain ou à travers des médias à distance, etc. Comment on crée les conditions de l'égalité qui vont faire que, effectivement, un ensemble de gens autour de nous vont être plus ou moins à l'aise avec tel type d'outils, tel type de dispositif, etc. Comment, par exemple, dans un centre culturel, on fait pour ne pas d'abord créer la fiche de diffusion, et puis quand il reste du temps à côté, se dire qu'est-ce qu'on fait pour les ateliers, puis quand il reste du temps à côté, qu'est-ce qu'on fait pour les relations à l'éducation permanente et les partenariats, etc. mais on se dit, tiens, c'est quoi le temps qu'on consacre à la diffusion, à l'éducation permanente, aux liens, etc. Comment les véhicules sont utilisés à travers tout ça? Comment les salles sont utilisées? Comment les techniciens? C'est quoi les proportions qui sont réparties dans tout ça à l'intérieur de l'institution? Donc, je pense que rien de ça n'est neutre sur la manière dont on a envie d'envisager le travailler autrement éventuellement. Une autre balise, c'est s'obliger à se mettre en danger. Alors, ce n'est pas un grand danger, à mon avis, ça, mais c'est quand même une mise en danger. C'est de régulièrement aller se mettre sur le territoire d'autres, dans les côtes des autres, pour continuer à essayer de comprendre. Paul en parlait tout à l'heure en disant à l'intérieur des mêmes systèmes, on a pu même oublier le peuple qui compose son système. Hein, on parle par exemple des syndicats, mais il n'y a pas que, hein, loin de là. Mais on est tous à la frontière de ça. Mais c'est comment aussi on croit qu'on connaît l'univers de l'autre et on ne le sait pas. Un exemple concret, une des actions qui a été initiée par les acteurs des temps présents pour les grèves du 15 décembre était de se dire, finalement, au lieu de se défendre soi-même, allons défendre l'univers de l'autre. Ben, c'est très différent, évidemment, que des AMO aillent faire le piquet avec la petite entreprise du coin qu'ils n'ont jamais rencontrée, en se disant, ben oui, c'est ce travail-là qui est en danger, ou que des gens du monde culturel, comme ça s'est passé à Bruxelles, aillent occuper l'institution scientifique, dont on se dit c'est grave si elle disparaît, mais ce monde scientifique qui découvre que le monde culturel, par exemple, peut être intéressé par cela. Comment des gens du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui sont qualifiés de, hein, puisqu'il faut des catégories, hein, d'allocataires sociaux, de chômeurs, etc., sont allés à Herstal, etc., sur des piquets avec des métallos, en se disant, mon Dieu, c'est ça une grève de travailleurs métallos sur un grand zoning, moi j'avais jamais vu ça, etc. Donc c'est comment il y a un entretien de l'exister ensemble dans la société en dehors de l'action qu'on construit. Aujourd'hui, on est beaucoup trop sur l'organisation de l'action et donc on se voit si elle est nécessaire à l'action qu'on construit. Mais en fait, on ne construit pas la relation de société constante qui fait qu'on pourra faire alliance au moment opportun quand il y a besoin d'être ensemble. Et c'est ça, je pense, qu'il y a vraiment à retravailler là-dessus. Se donner ce temps de l'existence dans la société en dehors du fait organisationnel. Pour que, lorsqu'on doit être ensemble, ça fasse sens, et pour que, effectivement, les frontières et les écartements entre les gens, les structures, les associations soient plus ténus. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on va se donner le temps d'être ensemble aussi ici maintenant, c'est-à-dire vous donner la parole dans quelques minutes, mais je voulais terminer ce petit tour. Sur cette question du travailler ensemble, hein. Je me tourne vers Paul ou vers Jérôme, qui veut.
Oui, la première chose sur laquelle je vais revenir, c'est comment est-ce qu'on a pu nous faire croire pendant autant de temps que le libéralisme nous avait amené la démocratie, alors que les seuls endroits à l'intérieur de notre société démocratique qui ne sont pas du tout démocratiques, ce sont bien les entreprises, qui elles-mêmes découlent d'une idéologie libérale ou néolibérale. Et quand on imagine ça, c'est vrai que c'est fou de voir que ce sont les seuls lieux où il y a encore une hiérarchie classique et que quand on sort après dans la sphère publique, normalement, il devrait y avoir une démocratie officialisée. D'où, du coup, toute la pertinence aussi du travail... Dans l'entrepreneuriat social, pour la démocratie en entreprise. Ici, je pense que nous, en tant qu'acteurs du monde associatif, ce qui est intéressant de voir ou de constater, c'est que parfois, nous aussi, on reproduit en fait des schémas entrepreneuriaux, on va dire, ou de hiérarchie classique dans nos propres associations. Et donc, du coup, voir où est-ce qu'on pourrait amener plus de démocratie délibérative ou plus de prise de décision collective. Ou plus d'intelligence collective. Mais bon, tout ça, ça demande des formations, ça demande des outils concrets. Et au-delà de ça, moi, j'ai toujours un petit bémol. C'est en tout cas quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Quand on amène de la démocratie délibérative, avec les acteurs avec qui ça marche, enfin les individus avec qui ça marche, c'est généralement des gens qui sont assez conscientisés déjà. Pour être assez conscientisé, il faut déjà avoir un background socio-culturel assez important. Et donc, du coup, il y a un risque de se retrouver de nouveau avec les mêmes. Et donc là aussi, voir comment est-ce qu'on négocie ce passage dans certaines sphères avec plus de démocratie délibérative, mais tout en incluant tout le monde. Une petite note à ce niveau-là, au niveau de notre rôle en tant qu'acteur culturel. Comme on parlait d'empathie là tout à l'heure, c'est clair que plus de démocratie demande de l'empathie. Donc voir qu'il y a d'autres moi dans la salle de réunion et qu'il faut pouvoir les écouter, qu'eux aussi ressentent des choses. Et donc ça, clairement que notamment la fiction amène l'empathie. La fiction nous permet de voir des personnages qui ont des péripéties, qui vivent des émotions et amène justement les acteurs à se rendre compte qu'il y a d'autres moi autour de moi. Voilà, je sais pas si on peut faire quelque chose de ce que je viens de dire, mais moi j'avais envie de le dire, je crois que ça marrant.
Nous
à l'intérieur de toute autre chose, c'est clair qu'on a comme ambition d'amener d'autres formes de faire débat. Des manières un peu plus fun, plus réjouissantes de pouvoir débattre ensemble. Il y a plein d'expériences qui ont été faites un peu partout. Il y a l'université du Nou qui a des catalogues énormes de manières de faire débat. C'est à nous à appréhender aussi la chose pour faire en sorte que ce soit pertinent et encore une fois où on inclut tout le monde. C'est pas facile et on n'a pas encore trouvé la formule magique et probablement qu'on va rentrer dans des jeux d'essais-erreurs. Le G1000 était un laboratoire d'expérience incroyable et donc là aussi c'est pour ça qu'on nous a souvent comparé au moins dans les intentions. C'est clair qu'à un moment on aimerait amener un débat démocratique à des niveaux locaux après avoir passé un processus de, on va dire, éducation populaire pour utiliser des grands mots, où on aura pu prendre conscience de certains outils pour appréhender des enjeux socio-économiques entre autres. Donc amener un débat qui amène des pistes concrètes vers toute autre chose à la fin d'un processus dans notre mouvement. Et alors, moi, je réagis quand même au mouvement citoyen de Christine.
Bah oui, c'est de bonne guerre, je m'y attendais.
Pardon ?
Oui, il faut.
Bah oui, évidemment. Personnellement, moi aussi, j'avais du mal avec le nom mouvement citoyen, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute autre chose est un mouvement citoyen et les syndicats ne sont pas des citoyens, ou les autres plateformes associatives, ce n'est pas des citoyens. Même un patron ou un politicien est un citoyen. Donc, à ce niveau-là, on voulait. C'était plus dans une optique. Bon, alors, il y avait clairement une optique un peu marketing, de dire le nouveau mouvement citoyen, c'est clair. Ça a été plus récupéré.
C'était donc ça. Attention, il va y avoir des exclusions.
Autant être honnête directement. Non, en fait, donc ça a été. Nous, on n'a pas choisi le titre Nouveau Mouvement Citoyen. Donc ça, c'est vraiment le journal Le Soir qui est sorti avec ça. Et on s'est dit, ah, mais ça marche bien, en fait, au niveau de la rhétorique. On va la réutiliser. Et donc, ça a effectivement été réutilisé. Alors, la difficulté, c'est d'usurper après le terme citoyen. C'est un petit bijou, hein, le mot citoyen. Il faut faire attention. Et donc, il faut pouvoir l'entourer, le cadrer convenablement, ce qui n'est pas toujours évident. Mais l'idée, surtout, quand on dit mouvement citoyen, c'est dire que quel que soit ton origine socio-économique, ton statut social, que tu sois secrétaire dans une ONG ou cadre dans une banque ou postier ou travailler dans une boucherie ou travaillant dans un centre culturel, on débat tous au même niveau, des mêmes thématiques. Et alors du coup, comment, avec le langage, pouvoir se comprendre, se parler, en sachant qu'on n'a pas tout le temps la même manière d'appréhender les mêmes enjeux. Et donc du coup, retisser du lien social à ce niveau-là, c'est dans ce sens-là que nous, on entend le terme de mouvement citoyen. Très, très bonne question. Est-ce qu'on est neutre ? On n'est clairement pas neutre. Hein. On n'est clairement pas partisan, mais on va amener des choses. À partir du moment où on va amener des choses, on va s'engager pour des alternatives concrètes ou pour des revendications politiques concrètes. Donc on ne sera automatiquement pas neutre. Dans une ou deux semaines, on va sortir sur les 10 vœux de toute autre chose. Donc Hart Boven Hart, qui est le pendant flamand de toute autre chose, est déjà sorti avec 10 vœux. Nous, on va sortir avec les 10 vœux plus ou moins équivalent du côté francophone. C'est clair qu'à la lecture des 10 vœux, il ne faut pas être savant pour voir dans quelle direction on va. C'est clairement un mouvement progressiste. Après, les médias ou quiconque nous collera l'étiquette gauche-droite comme on veut. Après aussi, c'est de la même manière quand un journaliste nous dit « Est-ce que vous êtes un mouvement de gauche ?» J'aimerais savoir dans sa bouche ce qu'il entend par être de gauche. Est-ce que Manuel Valls, François Hollande, est de gauche ? Est-ce qu'on peut voter pour le traité transatlantique en étant partialiste et donc se dire de gauche ? Est-ce que c'est ça être de gauche ? Alors moi je dis « Je ne suis pas de gauche ». Alors du coup, ça aussi, il faut pouvoir redonner en fait ces lettres de noblesse à des mots qui nous ont été soit volés, soit qui ont été usurpés. En tout cas, nous, clairement, qu'on s'engage pour une société en transition sociale et écologique et qu'on se dit progressiste. Après, on nous colle l'étiquette qu'on veut, mais c'est clair qu'on n'est pas neutre et en tout cas, si on l'est pour le moment, en tout cas, l'image qu'on en donne, on ne le restera pas très longtemps. Ah oui, juste un dernier mot alors, du coup. Je suis désolé si je fais trop long. En fait, ce qui est intéressant avec le débat gauche-droite, c'est quand même un enjeu parce qu'on a eu pas mal de discussions chez nous, notamment parce qu'il y a une de nos porte-paroles qui, lors d'une interview à Télé Bruxelles, on lui a demandé, alors, est-ce que vous êtes d'un mouvement de gauche ou de droite ? Elle a dit, ah non, ni gauche ni droite. Et le même jour, David Murgia faisait une interview en disant, en suggérant qu'effectivement, on pouvait nous qualifier d'un mouvement de gauche, sans le dire. Donc du coup, ça a créé pas mal de débats, et notamment parce qu'à l'intérieur du mouvement Tout Autre Chose, il y a pas mal de citoyens qui sont investis dans Podemos Belgique. Alors on a tous entendu plus ou moins parler de Podemos, et que Podemos a clairement, au niveau, et là c'est clairement du marketing politique, choisi l'optique de ne se qualifier ni de gauche ni de droite, et de ne pas rentrer dans le clivage socio-économique classique, et de se dire, nous, le clivage dans lequel on est, c'est les 99% contre les 1%, donc la population, la majorité de la population contre l'élite sociopolitique. C'est un clivage qui a été apparemment, pour le moment, qui est gagnant au niveau communicationnel. Donc là aussi, il y a quand même aussi des pistes à creuser et à voir, sans dire que Podemos est un exemple, bien sûr, enfin un exemple à suivre à tout prix. Mais voilà, c'est quand même des choses qu'il faut pouvoir interroger, réinterroger les clivages politiques qu'on amène en société dans les débats pour pouvoir amener aussi d'autres publics à peut-être à s'accrocher au mouvement. Voilà.
Merci beaucoup, Jérôme. Il y aurait tout un débat passionnant à faire sur ce côté ni gauche ni droite. On ne va pas se lancer là-dedans maintenant, ce n'est pas le sujet. Je me tourne vers Paul pour cette question du travail ensemble. Oui, je voulais souligner, pardon, il y a cette question de la bataille des mots qui est revenue, dont tu as parlé, dont vous avez parlé aussi. Ça me rappelle cette intervention de Franck Lepage l'année dernière. Ici, Franck Lepage parlait aussi de la bataille des mots dans sa conférence gesticulée. Voilà, Paul.
Ouais, ben ça va de soi. Non, je me dis, Jérôme, heureusement que le soir n'a jamais parlé d'acteur des temps présents, comme ça on n'a pas d'étiquette à devoir assumer malgré nous. Moi je voudrais plutôt réagir à part les mots, parce que je pense que ça c'est vraiment... Alors, clairement, le vocabulaire du marketing a complètement percolé dans le monde associatif. Je pense que ça, faut pas être très visionnaire pour l'apercevoir, et que d'autre part, les manières du marketing ont évidemment aussi pollué le monde associatif, et je trouve que le monde, quant à moi, je trouve que le monde culturel est devenu un milieu extrêmement dur pour l'instant, avec des patrons...
Extrêmement est devenu extrêmement...
Extrêmement dur.
Dur.
Je trouve qu'il y a une violence culturelle qui apparaît aujourd'hui et qui, moi, m'a tendance de temps en temps à me faire peur. Mais je voudrais réagir sur ce que vient de dire Jérôme à propos de la participation. Et il a fait écho au Gémil. Et il disait qu'il y avait que la participation, c'était aussi pour les gens qui avaient déjà participé quelque part, que ce n'était pas quelque chose d'égal. Alors, juste sur ce petit point-là, parce que ça rejoint effectivement comment on travaille ensemble, le G1000 a été réalisé à la forme d'un entonnoir, en vérité. Donc, au tout début étaient les questions. Quelles sont les questions que l'ensemble de la population voudrait soulever avec l'ensemble de la population ? Ces questions sont arrivées, elles étaient, je pense, entre 2 et 3 000 questions différentes, que nous avons thématisé en une vingtaine de sujets. Ces sujets ont été remis au vote, et là je parle de façon électronique, j'aperçois le biais, je vais y revenir, de façon électronique, donc c'était les gens qui s'exprimaient via Internet, et de ces 20 questions, les gens ont voté pour 3 questions qui devaient être prises en compte par 1000 autres personnes dont personne ne connaissait ni l'identité ni la qualité, puisqu'elles allaient être tirées au sort à travers un système bien connu qui est celui des instituts de sondage. Et nous avons donc fait de cette manière-là avec les trois questions qui sont arrivées sur la table. Il y avait le travail, il y avait la sécurité sociale et il y avait l'immigration, enfin trois thèmes extrêmement simples qui ont été donc discutés le 11 novembre 2011, je crois. Je pense que c'était ça. À Tour et Taxi à Bruxelles. Donc, ce qui s'est passé dans l'entre-deux, c'est un mouvement qui était très vite. Hein. Je pense qu'avec David, on a pensé à ça en février-mars et que le G1000 s'est fait en novembre. Et donc, entre ces deux étapes, l'étape de la récolte des questions et du vote sur les questions qui semblaient principales à l'ensemble de la population votant sur Internet, on va le dire comme ça, ben, il y a eu ce moment de récolte des candidatures spontanées, si je peux dire ça comme ça. Donc, on téléphone, un institut téléphone, explique le projet, dit est-ce que vous seriez libre tel jour, telle date, etc. Vous imaginez, vous êtes chez vous, vous recevez ce type de coup de téléphone, vous êtes assez acquia quand même. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? J'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'on va me demander ? Je vais passer une journée, je suis pas payé. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? C'est un jour de congé. Avec des strates sociologiques évidemment convenues, avec une part de population masculine, une part de population féminine, enfin la pyramide des âges, enfin tout ce que fait normalement un institut de sondage que nous avions tenu à la culotte pour que le travail soit bien fait. Sur les 1000 personnes qui avaient dit oui, on a eu la surprise d'en voir arriver 820 le matin à Tour et Taxi, que nous avions réparti autour de tables de 10 personnes qui étaient soit multilingues, qui étaient soit unilingues, soit qu'on y parlait flamand et français, soit qu'on n'y parlait que français, soit qu'on y parlait allemand et français, soit qu'on n'y parlait qu'allemand, etc. Enfin bon, bref, on avait donc réalisé cet exercice aussi de mise en place. Et à côté du G1000 officiel des 1000, il y avait deux autres sortes de G1000. Il y avait les G1000 off. Les G1000 off, ben, c'était ce que chacun pouvait organiser, par exemple, dans des centres culturels, ça s'est pas mal fait, avec d'autres personnes auxquelles ils se liaient. Il y avait les G1000 maisons, hein, qui étaient un travail sur Internet, et qui suivaient un processus d'un logiciel hollandais, enfin belge, mais qui était utilisé que par les Hollandais sur la sécurité routière, qui est une sorte de possibilité d'amalgamer les réponses et de dire si ma réponse convient à quelqu'un, ce quelqu'un me rejoint, etc. Et donc on fait groupe à partir de ce moment-là, et puis on obtient une espèce de visualisation d'une tendance majoritaire à un moment donné. Ce que ça a donné à ce moment-là précis, donc au soir du 11 novembre, nous avions dans les groupes, dans les tables, en vérité, le mainstream absolu. Donc c'était les opinions attendues qui étaient là, qui étaient discutées autour de la table. Et toutes celles qui étaient un peu divergentes ne passaient pas la barre. C'était à chaque question qui était posée, les participants faisaient des propositions qui étaient votées à la table, puis qui étaient remises dans le public. Le public revotait sur les propositions, etc., etc., de sorte que les trois premières se distinguent. Et évidemment, c'était toujours la 4, 5e ou la 6e qui étaient les plus intéressantes au point de vue de leur innovation et de leur possibilité d'inventer. Elles sont toujours restées en rade à ce moment-là, inévitablement, puisque là, on était dans un schéma
même
majoritaire.
Dans ce schéma qui laissait la porte ouverte à toutes les prises de position, c'était les positions mainstream, c'est-à-dire les positions un peu habituelles. C'est-à-dire que
ce jour-là, le G1000 a fait le programme du prochain gouvernement. On va le dire comme ça. Les G1000 off à côté, donc les G1000 associatives, va-t-on dire, ont fait le programme de Syriza, en gros. Et les G1000 à la maison, donc les G1000 devant l'ordinateur, ont fait le programme de Nicolas Sarkozy. On va le dire, c'est assez simple.
Mon Dieu. Voilà.
Comme ça, les choses sont claires. Mais le processus n'était évidemment pas terminé là. Hein. Bon. Donc, ce jour-là, on a retiré au sort parmi les 820 personnes. À ce moment-là, sur décision personnelle des gens, on n'a pas retiré au sort dans un nuage absolu. Donc, on a dit qui serait d'accord d'être retiré au sort et de continuer le processus avec nous. 500 sur les 800 ont marqué leur accord pour continuer un processus. Et de ces, sur ces 500, on a tiré au sort 32 personnes. D'accord ? Alors, je fais juste l'insiste pour dire que, tout à fait, évidemment, nous savions bien que les enquêtes par téléphone, etc., pour déterminer quels seraient les, le tirage au sort par téléphone n'était pas suffisant pour toucher des couches de la population qui n'avaient pas le téléphone et qui pouvaient en aucun cas être sondées. Donc, nous avions pris le soin d'intégrer d'office des gens qui étaient en home, des SDF, enfin toute une série de couches de la population qui ne pouvaient pas être touchées par un tel sondage, ce qui fait qu'il y a une représentation tout à fait logique. Donc quatre fois par an, alors, donc on a demandé à ces 32 personnes de choisir parmi les trois thèmes celui qu'ils voulaient investiguer profondément, et ce thème a été le travail. Ça tombe bien, vous pourrez aller voir sur le site du GEMIL les conclusions qui sont, moi je trouve, assez innovantes, qui posent les bonnes questions par rapport au travail aujourd'hui, je trouve. Et précisément cette mixité de table. La façon dont, évidemment, par exemple, il y a une personne qui était extraordinairement importante dans les débats, c'était une dame rome de la communauté germanophone. Elle a été d'une manière, une percussion absolue dans les débats que les gens menaient, parce qu'elle amenait là une parole de terrain qui ne demandait qu'à être écoutée, qui ne demandait qu'à être entendue. Ce qui fait que la mixité sociale qui était autour de la table, c'est à un moment donné, on va dire, compactée sur l'idée qu'effectivement il fallait travailler différemment. Qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans la manière dont on envisageait le travail, dont on envisageait la question du travail, dans la question de mélanger ce qui était travail et de ce qui était emploi. Ça n'allait plus sur la question du robot qui emporte le travail du travailleur, qui à ce moment-là devient rejeté du côté du chômage et devient en tant que tel stigmatisé parce qu'il ne s'est pas adapté à un marché du travail. Enfin bref, toute cette ronde-là. Donc les gens ont bien fait cette distinction-là. Et donc effectivement, ce que je veux dire par là, c'est que cette manière participative, cette délibération participative, tout ce qu'elle demande, c'est du temps, en vérité. Donc c'est la mise en place de processus qui permettent de dépasser le niveau zéro de l'entendement sociétal. Et donc si on veut qu'effectivement les résultats arrivent, c'est pas une mise en place, c'est un vrai processus qui demande et méthodologie, et patience et longueur de temps. Je pense qu'à ces conditions-là, on peut tenter d'y arriver, mais c'est pas un truc pour lequel on peut pas claquer du doigt avec ça, dans le sens de Jérôme, dans ce cas. Voilà.
Merci beaucoup d'abord pour le témoignage et puis pour l'insistance mise sur cette notion du temps. Alors du temps. La question se pose maintenant. Avec la permission des organisateurs, je me permettrai de déborder un tout petit peu, parce que je pense que c'est un tout petit peu, même un peu, pour vous donner la parole. Alors, il y a ici un chapeau avec des mots-clés qui peut éventuellement circuler parmi vous. Et puis, je ne sais pas qui est là. Oui ?
S'il te plaît. Voilà, on va refiler le micro.
On va peut-être tirer un ou deux mots au sort, et puis je vous demanderai à tous les quatre, peut-être peut-être par association d'idées ou pour nourrir l'échange, de réagir très très brièvement, et aussi peut-être à la personne qui tire ou à vous dans la salle de réagir sur ces mots. Et aussi, le micro est là pour vous laisser la parole pour réagir ou poser une question ou faire une remarque. Voilà, c'est parti.
Qui est volontaire ? Il n'y en a pas ? Je désigne ? Bon. Allez, quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. Hop.
Mons 2015.
Je voudrais dire quand même que cette idée de tirer au chapeau est quand même pas mal, parce que ça, par rapport à la notion de temps et aussi à la notion d'imprévu, ça amène dans le débat quelque chose qu'aucun d'entre nous peut-être n'aurait amené à ce moment-ci. Donc, brève réaction de tous les quatre et puis de la salle sur Mons 2015, rapidement.
Ok. Donc là, c'est plus avec ma casquette Esperanza. J'essaie d'être rapide sur Mons 2015. À partir du moment où on a un énorme événement qui balaie des rues certains commerces, qui même renvoie certains SDF dans d'autres recoins de la ville, qui cache certaines choses qu'on ne voudrait pas montrer, qui fait même des constructions de soi-disant centres culturels beaucoup plus importants, beaucoup plus grands, etc., etc., il faut se poser des questions. Voilà. Après, c'est voilà.
Merci. Voilà, merci. Une autre réaction ?
Non ? Oui, Christine ?
Il y aurait vraiment beaucoup à dire. Il y a une chose, je ne sais plus quel reportage radio j'entendais en roulant en voiture à propos de Mons 2015, et j'entendais un des organisateurs culturels vanter les qualités de Mons 2015. En fait, il utilisait les mots de l'éducation populaire, il utilisait du vocabulaire qu'on a un petit peu utilisé ici, et en disant si Mons 2015 permet que ça soit ça, hein, donc les liens entre les gens, la culture populaire, la diversité, il ne parlait pas de ce dont tu viens de parler, évidemment. Hein, et j'étais en train d'écouter la radio et je me disais, mais nom de Dieu, il y a des acteurs culturels qui prennent des risques depuis des années en différents endroits, pas partout, mais en différents endroits, à chercher à faire ce qu'il était en train de dire, et qu'ils ne sont pas entendus et reconnus par l'appareil culturel, par le système qui subventionne, par, enfin partiellement, hein, je fais ici une généralité, et tout à coup, ici, enfin, on a l'air de tout faire là, ce qui n'est pas nécessairement soutenu par ailleurs, notamment dans les options du rapport à la population. Après, est-ce que c'est ça qui se passe à Mons 2015? Je n'en sais rien.
Si oui, bien sûr.
Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis liégeoise, mais je n'ai pas une affinité particulière avec les années culturelles. Mais du coup, je l'ai suivi de loin, et le peu que j'entendais, c'était du tatillonnage sur... alors, en termes économiques, finalement, ça va juste être déplacer des flux, ou au contraire, on va pouvoir compter sur autant de visiteurs, et l'horeca, et les commerces, etc. Et ça m'a assez scotché, parce que je pouvais entendre des tas d'autres choses derrière le mot « année culturelle ». Et ça, ça résonne fort avec beaucoup d'enjeux liés à l'économie sociale, c'est, et à l'économie en général, qu'est-ce qui compte ? Et qui définit qu'est-ce qui compte, et comment on le compte ? Je ne sais pas comment ça va se passer, votre évolution en termes de mode de financement, etc. Mais en tout cas, une des sirènes pour le moment qui hurle ou qui charme au sein de l'économie sociale, c'est on fait plus que de l'économique, et ça, il faut que ce soit reconnu et donc quantifié. Pouvoir dire, tiens, quand une personne est en formation plutôt qu'au chômage, combien ça permet d'économiser ou de gagner à l'échelle de la société ? Et on appelle ça la mesure de l'impact social. Alors on pourrait l'appliquer à la culture aussi, je pense. Et pour nous, ça, c'est le coche à ne pas louper, quoi. Qui va définir ça ? Comment on va le faire ? À quoi ça va servir ? Et avec quelles conséquences pour qui ? On travaille ce dossier-là, ça se travaille aussi dans les universités, et je serais très contente que ça se passe aussi dans les centres culturels. Je pense que ça pourrait être un enfer pavé de bonnes intentions.
Oui, il y a trop de temps. Merci beaucoup. Paul sur Mons 2015.
Ah, moi, j'ai entendu dire que la rue Salvatore Adamo était très bien. Vraiment, c'était... Non, mais je veux dire, peut-être faire le départ entre ce qui est capital culturel et culture capitale, quoi. Dire, c'est un petit peu quand même, quand même ça qui nous occupe. Donc, c'est évidemment la question des après. Malheureusement, j'ai envie de dire, c'est un truc qui ne peut pas se louper. C'est un truc qui ne peut pas se louper, Mons 2015. Si on se retrouve dans la situation, bon, c'est un risque déjà presque visible. Où, en 2016, les choses soient d'elles-mêmes déstructurées et qu'effectivement, la preuve soit faite que ça ne se fait pas comme ça. Mais ça ne va pas être seulement les organisateurs de Mons 2015 qui vont en subir les conséquences, mais je pense que par effet de ricochet, tout le secteur va évidemment souffrir de la mise en place d'un événement mastodonte au milieu, effectivement, de ces miracles discrets qu'essayent de produire le secteur culturel et le secteur associatif, et pour lesquels il n'est pas entendu. Donc, effectivement, c'est l'après 2016, le monde culturel montois se pose la même question, d'ailleurs, en se disant, Est-ce qu'il va y avoir une suite à cette aventure-là? Est-ce que je ferai partie de la suite? Est-ce que les projets vont continuer? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, on est là dans... Enfin, moi, personnellement, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ça, parce que si c'est comme un événement du type Jeux olympiques ou de fait, preuve sera faite que ça n'apporte pas les fruits désirés, je crains bien que ça ne soit pas le seul bourgmestre de Mons qui en subisse les conséquences.
J'épingle les termes de miracle discret du monde culturel que j'aime beaucoup, et peut-être y a-t-il ici des gens dans les centres culturels qui contribuent à ces petits miracles
c'est
discrets.
C'est un terme qu'emploie Isabelle Stenger souvent.
Ah oui, d'accord. Je suis partagé entre peut-être un autre tirage de mots, ou bien tout simplement vous laisser maintenant clairement la parole pour une intervention, un témoignage ou une question. Est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs personnes qui voudraient intervenir?
C'est le premier et le plus difficile. Après,
c'est toujours comme ça. Oui. Non, alors je propose qu'on retire un deuxième petit...
Quelqu'un est volontaire?
Ah, pardon, je n'ai pas vu. Oui, monsieur, là-bas. C'est aussi l'un des thèmes des ateliers de cet après-midi ou de ce matin. Donc, leur relation à la culture et dans les écoles aussi.
Alors, c'est une excellente question. Parce que moi, c'est un truc qui me taraude souvent. En fait, moi, j'avais même eu un moment l'idée, bon, on a toujours beaucoup d'idées, mais après, on n'applique pas à grand-chose, d'essayer de créer, parce que j'ai eu du mal à voir dans le paysage associatif un acteur qui le faisait, qui faisait la connexion entre plein de créations artistiques, plus ou moins engagées, ou qui avaient un vecteur à sensibiliser. Par exemple, nourrir l'humanité, c'est un métier, pour parler de l'alimentation, qui est un outil pédagogique puissant, avec le monde associatif qui peut parler de ce genre de thématiques-là, et des connexions avec des maisons de jeunes ou des écoles. Et alors du coup, une équipe d'artistes, une équipe pédagogique, et avec du contenu qui peut rentrer dans les écoles avec une création artistique qui amène des débats. Voilà moi le lien que je fais qui me paraît important. En sachant que du coup, effectivement, on ne peut pas arriver avec du contenu brut comme sur n'importe quelle thématique, et que la culture permet de justement pouvoir fluidifier certains enjeux, pouvoir appréhender certains enjeux d'une autre manière. Et alors, à ce niveau-là, moi, je trouve super intéressant le travail de la SCOP, donc la coopérative Le Pavé de Franck Lepage en France. Voilà, si vous voulez, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Je trouvais super intéressant le travail de la Pavé.
Okay. Oui, et puis ça a essaimé. Enfin, il continue à. Enfin, ça. Oui, oui.
Voilà. Bon, très bien.
Merci, Jérôme. Une autre réponse à cette question sur le contact avec les écoles.
Décousu, parce que. Voilà, ça fait un moment, j'ai bien entendu ce que la ministre disait, mais ça fait un moment que j'ai plus réfléchi à cette question-là. Donc, mais décousu quand même. Moi, la première chose que je me pose comme question, c'est comment ça se fait qu'elle n'est pas encore dans les écoles depuis les années où il y a des choses qui ont été faites, mises en place, et notamment par la diffusion culturelle. Hein, s'il y a une partie de diffuseur ici, vous le savez bien, une manière, alors allez, je vais le dire à la négative radicale, excusez-moi pour tout ce que je vais choquer, une manière de faire gonfler son public annuel dans les centres culturels, c'est évidemment de faire du théâtre à l'école, etc. On a un public captif, on organise, on prend des spectacles. Alors, je retire tout ça, je sais qu'on a des très bons spectacles, je n'ai pas dit que ce n'était pas bien, j'ai toujours défendu ça, etc. Mais voilà. Mais donc, ça fait des années que ça dure quand même, ça. Et donc, je me pose la question, ça, et puis, au fil du temps, il y a quand même, alors peut-être avec plus ou moins de périodes d'intensité et de faiblesse, des artistes qui vont dans les écoles, il y a eu ces subventions qui sont des subventionnettes, mais je ne sais pas si elles existent encore, parce que à culture école, là, culture enseignement, je crois que c'est Fadila Lanane qui avait mis ça en route, mais je ne suis plus sur ce terrain-là. Bon, moi, ce que je me pose comme question, c'est comment elle n'y est pas encore et comment elle n'y est pas installée. C'est une vraie question pour moi et je pense que la question, elle interroge l'école, elle interroge les directions, elle interroge les ministères, mais elle interroge aussi les acteurs culturels, mais elle interroge aussi la société. La deuxième chose, c'est que, dramatiquement, on est encore dans une société où, malgré qu'il y a plein d'acteurs culturels, la culture est quelque chose d'à côté. On ne vit pas dans la culture. Enfin, moi, je pense que dans notre réalité, on ne vit pas dans la culture. Donc, forcément, l'école n'étant qu'un système dans la société, suivant le projet qu'il y aura dans l'école, elle y sera plus ou moins présente ou plus ou moins absente. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, souvent aussi, on amène la culture quand on ne sait plus comment régler les problèmes impossibles. C'est pas par hasard que djihadisme et pauvres jeunes qui se font rattraper par le système et paf, la culture. Moi, j'ai pas dit que la culture n'était pas quelque chose d'important, j'y crois fondamentalement. Mais j'ai toujours vu dans les époques de crise que quand on ne sait plus quoi faire par rapport à l'emploi, quand on ne sait plus solutionner, quand on ne sait plus, c'est à ce moment-là qu'on a envoyé des artistes dans les quartiers et que les gens, tout à coup, des quartiers allaient adorer la culture et devenir créatifs. On invente article 27, comme ça on met des billets gratuits parce que, d'évidence, tous les allocataires sociaux aiment aller au théâtre, ou etc., etc. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis une défenseuse de la culture, mais je pense qu'on a toujours ramené la culture quand on est à Cuya, dans la merde, sur les enjeux fondamentaux des droits sociétaux des gens. Et alors on se dit, on va aller chercher la sculpture. Et la sculpture, j'ai dit. souvent, ça a commencé par des sculptures à créer collectivement au milieu d'un quartier, etc. etc. Enfin bon. Mais donc, je pense que c'est à questionner, ça, aussi, dans la manière de créer le rapprochement. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Je dis juste qu'il y a vraiment à questionner fort. Je me dis une chose, moi, je le dis en fait en me disant qu'il faudrait y réfléchir. Je ne sais pas si j'ai raison quand je dis ça. Ni le reste, hein, d'ailleurs. Mais je sens quelque chose dans mes tripes. Mais je vais assez souvent, moi, pour le moment, dans les écoles de formation de futurs enseignants. Alors, j'y vais, moi, par la porte d'entrée, lutte contre la pauvreté, et on croit chaque fois que je vais venir donner des recettes pour savoir comment on va s'occuper du pauvre. Et puis, je vais leur parler de politique et d'autres choses, évidemment. Mais je pense que la culture n'existe pas dans ces lieux-là. Et que dans leur formation, elle n'existe pas. Et que les jeunes, et on le sait sociologiquement, pour une partie qui s'oriente vers la formation d'instituteurs maternels, pour lequel j'ai le plus grand respect du monde, hein, donc bien comprendre ça, et par exemple de primaire, et on pourrait monter, etc., sont des gens d'une classe sociale où souvent la culture, et ce n'est pas de leur faute, hein, mais est périphérique à leur vie aussi. Et donc, on n'est pas pétri de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ces endroits-là, dans ces formations-là, pour qu'au moins, si même la culture n'existe pas dans la classe en termes de « je vais faire venir un artiste », elle existe en termes d'éveil dans la tête de l'enseignant qui, s'il va au théâtre, à l'école, il sait pourquoi il y va. S'il découvre des bouquins avec des enfants, il sait pourquoi il les découvre et ça l'intéresse et ça le pétrit, etc. Donc, je me demande s'il n'y a pas à travailler plus à cet endroit-là. Et je pense aussi qu'il y a un énorme danger, parce que si les résultats étaient probants, ils seraient déjà là, qu'il y a un énorme danger à ce que le secteur culturel se précipite, si la ministre ouvrait les portes comme ça, à aller faire plein de trucs culturels dans les écoles, parce que de toute façon, la proportion des ressources que vous avez en face du défi qu'il y a à relever, compte tenu du nombre d'écoles, de la quantité et de la gravité des problèmes, de l'intensité et des difficultés, fait qu'à mon avis, ça sera quand même courir derrière quelque chose. Donc je trouve que ça mérite de réfléchir à quel endroit de l'appareil et de l'ensemble du système de l'enseignement, qui n'est jamais qu'un outil qui fait société, et pas intervenir par rapport à la culture. Voilà.
Merci beaucoup. Oui, il y a encore des pistes très fécondes. Paul, les choses sont dites.
J'ai une intervention ici.
Oui, tout à fait. Monsieur.
Oui, bonjour. Éric Frère, je suis à la fois animateur à Télé-Bruxelles, justement, puisqu'on en parlait, et je dirige le service culture-enseignement au ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc dire que la culture dans les écoles n'existe pas, c'est faux, complètement faux. La culture est quand même dans les écoles, ne fût-ce que par la personnalité des enseignants, des maîtres qui sont là et qui, par leur savoir-faire, évidemment, leur savoir-être, font passer toute une série de choses.
Oui, je crois qu'il n'a pas été dit que la culture n'était pas présente dans les écoles.
Je crois avoir entendu
ces mots-là. Non, je pense qu'il s'agissait de pistes alternatives par rapport au circuit traditionnel. Enfin, je vous laisse parler.
Et je termine alors pour être très court. Il y a effectivement des systèmes qui sont mis en place, non pas par la ministre Lanan, mais par la ministre Arena à l'époque. Enfin, ça c'est anecdotique évidemment. Ce sont des mesurettes, effectivement, se poser dès lors la question, mais elles existent. La culture essaye d'entrer à l'école. Je ne vais pas développer pour ne pas entrer dans les débats d'atelier de tout à l'heure. Ce sont des mesurettes. On peut peut-être se poser la question de savoir si l'argent de la culture est orienté correctement. Quand on sait par exemple que je crois que c'est 57% à 1 ou 2% de marge de l'argent de la culture est réservé à la RTBF.
Merci. Réaction de l'un ou l'une d'entre vous ?
Oui, juste dire, donc on ne s'y méprenne pas, hein, je crois qu'on a bien compris, je n'ai pas dit que la culture n'était pas dans l'école, et je suis d'accord au plan budgétaire, etc. Mais je pense qu'il y a à voir les choses différemment, à mon sens, puisqu'il faut aussi pouvoir évaluer à un moment donné les politiques à l'once de l'impact qu'elles ont dans la durée et de comment on peut mesurer que ça a un effet sur la société. Et là, je pense qu'il n'y a pas du tout que la culture qui est en difficulté par rapport à ça, c'est quelle est l'évaluation qui est faite des politiques public à l'once de la réduction des inégalités, à l'once du mieux vivre ensemble, à l'once de, etc. Et de là, la proposition de réfléchir de façon alternative à ce lien culture-école, notamment. Il n'y a pas que ce lien-là.
Merci. On va prendre peut-être une dernière question. Moi, j'aurais une dernière peut-être remarque à faire, mais s'il y a une autre intervention, et puis on va s'acheminer tout doucement vers la clôture, parce que la journée est loin d'être finie. Bien, alors je reprends juste la main pour une question qui paraîtra peut-être un peu polémique, mais dans le contexte des événements dramatiques de Paris et d'ailleurs, une réaction de la ministre Joëlle Miquet, qui sera peut-être présente ici tout à l'heure, je ne sais pas, ou un de ses représentants, est intervenue le 18 janvier dernier pour plaider que la sécurité soit exemptée de la rigueur budgétaire européenne. Il faut, je cite, elle dit, il faut immuniser les dépenses de sécurité. Et donc, je voulais poser la question, est-ce qu'il faut immuniser uniquement les dépenses de sécurité ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi immuniser, contre la rigueur budgétaire européenne, entre autres, les dépenses de la culture ou les dépenses de l'enseignement et beaucoup d'autres dépenses ? Voilà, question ouverte que je lance à l'Assemblée. Et que, voilà, quelqu'un veut réagir par rapport à ça ?
Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, dans sécurité, j'entends donc sécurité sociale, sécurité de l'emploi, sécurité. C'est ça que j'entends.
Oui, voilà, cette sécurité. Voilà. Oui. D'accord. Bien. Eh bien, je propose qu'on en reste sur cette note, à la fois polémique et en même temps humoristique. Je voudrais remercier les organisateurs, je voudrais vous remercier pour votre attention et vos interventions. Je voudrais surtout remercier pour leur intervention, la pertinence de leur intervention et de leur attention, nos quatre invités. Merci beaucoup. Applaudissements.